Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti !
Le plus beau jour de votre vie, ou le pire, c'est selon. En France, on tient souvent un double discours autour de la maternité. Et à l'heure où, peut-être, pour la première fois dans l'histoire, on peut enfin décorréler féminité et maternité, on s'interroge. Une autre maternité est-elle possible ? Une parentalité féministe ? On va en parler cette semaine avec toi, Pauline. Comment ça va ?
Salut ! Bah écoute, ça va. En ce moment, je découvre de plus en plus la façon dont les femmes sont notées. Ouais. D'ailleurs, peut-être que d'être enceinte, ça te rapporte des points, je sais pas, socialement. Mais bon, j'ai ma pote Judith Duportail qui sort le livre « L'amour sous algorithme » qui parle de Tinder et de son algorithme qui mesure ta désirabilité.
Aux éditions de la Goutte d'Or, achetez-le.
Exactement, et qui montre notamment que les femmes jeunes sont plus désirables que les hommes vieux selon cet algorithme patriarcal.
Surprise.
Tinder, on voit à quel point c'est une machine sophistiquée et tellement aboutie, justement pour calculer qui nous sommes, pour nous évaluer, pour étudier notre comportement, notre écriture, même notre orthographe, le temps qu'on met à répondre, etc. Qui sommes-nous? Quelles sont les études que nous avons faites? Combien nous gagnons? Pour nous mettre en relation avec des gens qui sont censés correspondre à tous ces critères.
Voilà. Et toi, comment ça va?
Moi ça va, je reviens de vacances en Italie et j'ai assisté à un spectacle de boylesque, c'est-à-dire de burlesque masculin, de la SCEP, S-C-E-P, trouvez-les sur Facebook. Donc c'est la Société des Effeuilleurs Parisiens. Et donc il y avait même un sketch sur les gilets jaunes et sur MeToo avec des hommes en slip à paillettes. Je vous recommande.
Ils ont érotisé le gilet jaune.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un peu d'actualité féministe en ce moment ?
On avait envie quand même de féliciter notre consoeur Marie Kirschen qui a été nommée à la tête du web des Inrock.
Ouais,
bravo à elle.
C'est le grand remplacement.
Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle qui est arrivée. On pleure la mort de la grande Agnès Varda.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Et oui, Jean-Luc Godard nous enterrera tous. En tout cas, moi, je recommande la comédie musicale d'Agnès Varda sur l'avortement qui s'appelle « L'une chante, l'autre pas ».
Faire ce bas monde, des enfants ou pas, être plate ou ronde, j'ai le choix. Mon corps est à moi, mon corps est à moi.
En 1977.
Le meilleur film que j'ai vu avec ma maman qui m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle pleurait cette grande dame et qu'elle se souvenait de cette séance de cinéma parce qu'on l'a revue ensemble au cinéma.
Oh.
C'était absolument merveilleux.
Je travaille depuis très longtemps. Je n'ai pas fait une carrière d'argent. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu des succès d'argent. Mais j'ai été connue. Je suis connue et reconnue et appréciée. Donc mon travail n'est pas dans l'ombre, mais mon travail est dans la discrétion.
Alors cette semaine, pour parler un peu du sujet du jour, on a décidé de s'attaquer à un gros morceau. On va parler de grossesse, de maternité, de parentalité, tout cela vu au prisme du féminisme, puisque on va se demander s'il est possible de vivre tout ça autrement que comme une aliénation. Mais d'abord, pour faire un petit rappel historique, il n'a échappé à personne que la maternité a très longtemps été présentée comme le seul destin biologique vraiment consubstantiel de la féminité.
Les jeunes accouchées sont souvent des femmes pâles mais séduisantes, coiffées et maquillées. Comme si la beauté était vraiment le premier devoir d'une femme. Là-dessus, tout le monde est d'accord.
Puisque pendant très longtemps, on s'est refilé les femmes comme des ventres pour obtenir une lignée. Et dès que l'enfant était né, il appartenait ensuite au géniteur. Olivia Gazalet le résume très bien dans son livre « Le mythe de la virilité », où elle écrit que les femmes ont été asservies aux besoins domestiques et procréatifs de l'homme. Je cite « C'est sur l'idée de nature que s'est opérée la hiérarchisation entre les sexes. La maternité serait non seulement le fondement de son être, la seule finalité de son existence, mais aussi son unique vocation sociale. Elle est chair et transmet la chair. C'est la seule manière d'acquérir une valeur. » Et plus tard, la maternité va même devenir un devoir patriotique, puisque le corps féminin, c'est aussi le corps de la nation. Et depuis le 19e siècle, avec une peur croissante de la dénatalité, il faudra, bien entendu, régénérer la nation et pondre de bons citoyens. D'ailleurs, les antiféministes se sont empressés de présenter les femmes sans enfants comme masculines et vraiment repoussoires. Et la politique nataliste en France a réellement tout mis en œuvre pour cibler et persuader les femmes d'enfanter, au point où c'est même devenu une propagande dans les années 30, puisque l'inventeur de la puériculture, le docteur Pinard, disait même « Une femme ne se porte bien que si elle est mère, et si possible avant 25 ans, je cite, dans l'intérêt national. » Voilà.
Et
quel beau programme.
Et va te sentir bien avec ça qui tourne en boucle. Pas à la télé, mais sur les affiches ou autres. Donc oui, tu as raison. Et on peut rappeler aussi que historiquement, la médecine obstétrique a été appropriée par les hommes. Donc on parle quand même là du corps des femmes. Et en fait, ces hommes, on les ont dépossédés de l'accouchement, alors que pendant longtemps, c'était elles qui s'en occupaient. Donc traditionnellement, en fait, on donnait naissance entre femmes, à la maison, dans la chambre. C'était pas autorisé vraiment aux hommes. Et on faisait ça avec l'aide d'une matrone, qui était une femme désignée pour son expérience, pour la confiance qu'on plaçait en elle. Et puis plus tard, par les sages-femmes qui, elles, étaient formées. Et ensuite, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est plutôt la figure de l'homme médecin, l'homme accoucheur qui va s'imposer, paradoxalement. Et avec la médicalisation de l'accouchement et le recul de l'accouchement à domicile au XXe siècle, les sages-femmes vont petit à petit perdre leur autonomie, alors que c'était elles les détentrices de ce savoir. Donc bon, la mortalité en couche, elle a baissé, heureusement, grâce à l'amélioration des techniques médicales. Mais par contre, c'était désormais les médecins qui régnaient en maître dans cet hôpital et qui diffusaient l'idée que mettre au monde était une pathologie et qui ont un peu eu la main mise sur ces corps. Et ils ont introduit, par exemple, la position allongée, immobile sur le dos au XVIIe siècle. Et on sait aujourd'hui qu'elle peut être douloureuse et qu'elle n'est pas forcément adaptée.
Lorsque le moment de la descente de l'enfant est proche, on place la mère en position oblique, plus ou moins assise, selon les nécessités. La femme va pouvoir effectuer les poussées en s'aidant des étriers, des accoudoirs et des poignets.
Et donc, il y a ces messieurs qui ont progressivement mis la main, en fait, sur les vécus des femmes.
Mis la main à la pâte, littéralement. Ouais. Oui, d'ailleurs, si on se réfère au texte d'ethnologie, on sait aujourd'hui que la position la plus recommandée serait plutôt accroupie dans l'eau ou à quatre pattes.
C'est ça, et puis il peut y avoir la gravité, même je crois debout on peut accoucher. Mmh. Enfin, en tout cas, disons que ça devrait plutôt être aux femmes de décider. Donc, que disent les féministes sur le sujet ?
Bien, des choses, ma foi.
Voilà, on voulait aussi vous parler de ça. Donc, le mouvement féministe français, dit entre guillemets de la deuxième vague, lui, il s'est pas vraiment intéressé à la maternité en tant que telle. En fait, à l'époque, donc fin des années 60, début des années 70, on défend avant tout l'idée d'une maternité volontaire. Donc, c'est plutôt en fait le droit de ne pas avoir d'enfant. Donc, on est plus autour des droits de la défense de l'avortement, de la contraception. Et ensuite vient la théorie de la maternité comme esclavage. Donc,
qui ne s'est pas tellement démodé,
c'est ça. En tant qu'instrument de l'asservissement des femmes. Et donc là, les féministes cherchent à combattre donc, cette idéologie dont tu as parlé, selon laquelle la maternité serait la seule raison d'être des femmes. Et elles dénoncent aussi ce travail domestique gratuit que la maternité représente. Et donc là, c'est les thèses féministes matérialistes qui démontrent que le combo gagnant, quelque part, c'est le mariage, la maternité et la famille, qui sont le triptyque de l'oppression sexuelle, socio-économique et politique. Donc un joyeux programme. Mais il y a certaines féministes qui ont voulu quand même investir le sujet. Par exemple, l'historienne Yvonne Kniebeller, qui explique que la maternité n'est pas qu'une aliénation. Et elle dit dans Le Monde en 2010, « Il faut certes aider les femmes à ne pas être mères quand elles ne veulent pas l'être, mais il faut aussi les aider à l'être quand elles le souhaitent. » Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a un mouvement de réappropriation du sujet par certaines féministes contemporaines. Et les femmes ont envie de se réapproprier cet événement de la vie pour qu'il ne reste pas un impensé du féminisme, finalement. Et il y a encore cependant des frictions entre les femmes qui veulent revenir à un accouchement naturel, sans péridurale, en maison de naissance ou à la maison, et des féministes plutôt, peut-être comme Elisabeth Badinter, qui, elle, voit ce mouvement comme une régression. Donc il y a encore un peu des débats autour de ça, j'ai l'impression. Mais par contre, tout le monde est à peu près d'accord pour contester ce qu'on appelle la norme reproductive et dont tu vas nous parler.
Oui, effectivement, moi j'ai un peu discuté avec Fiona Schmidt, qui est l'autrice de L'amour après MeToo. On a un peu parlé de ce qu'elle appelle la charge maternelle, donc, c'est-à-dire de la fonction sociale de l'utérus et du contrôle social qui s'exerce à travers le corps féminin, encore aujourd'hui, même si souvent c'est jamais présenté en ces termes. Et pour moi, tout ça, ça rejoint un petit peu la difficulté à distinguer en gros sa propre envie de la pression sociale. Elle dit qu'il faut se reproduire, évidemment, mais en plus selon un certain schéma, c'est-à-dire pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. Elle dit que les gens vivent la tête dans ton utérus de 15 à 55 ans et te disent en permanence comment être mère. Qu'on ne peut pas avoir d'enfant à 20 ans, ni à 40 ans, ni un seul enfant, ni 5. On rappelle aussi que dans la Rome antique, il fallait en avoir exactement 3 pour être une femme respectable. Donc il ne faut pas être trop carriériste, mais il ne faut pas non plus rester à la maison. Et surtout, on est censé kiffer. Et à contrario, on n'impose absolument pas ça aux hommes, puisque c'est socialement valorisé étant une option, un bonus.
Et donc Clémentine, tu as lancé un appel à témoins sur le sujet et il y a une femme notamment qui
témoine.
Oui, et il y a une femme qui a accouché à la maternité des Bluets, donc c'est une maternité historique qui a été pionnière des techniques d'accouchement sans douleur, mais où visiblement il y a aussi parfois des soucis. Elle écrit « J'ai le sentiment qu'avoir été enceinte m'a enlevé une certaine fluidité. Je suis devenue femme à ce moment-là et c'était violent. Mon corps est devenu public, tout le monde se permettait de le commenter et il m'a aussi précarisée car j'étais freelance et j'ai perdu des clients. » Pour moi, les femmes devraient être payées pendant la grossesse pour changer le regard des hommes sur tout ce travail invisible et non rémunéré qu'on fait. Donc ce témoignage, ça fait un peu penser justement aux thèses matérialistes. Et aussi, ça rappelle que quand les femmes sont enceintes, parfois leur corps semble ne plus leur appartenir parce qu'il y a plein de gens qui se permettent de le toucher, notamment sans la permission des femmes.
Oui, arrêtez, hein, ce ne sont pas des bons publics.
Non.
Donc pour résumer, aujourd'hui, les revendications féministes liées à la maternité, quand on ose aborder ce sujet touchy et un peu ringard, touche notamment aux violences gynécologiques et obstétricales, tu l'as dit, au pouvoir des médecins et aux conditions d'accouchement. Et c'est vrai que ce qu'on demande, c'est surtout une reprise en main par les personnes concernées de l'information, en fait, simplement pour qu'elle circule et pour aller un peu à l'encontre du discours dominant qui est très, très euphorique.
C'est clair.
Donc effectivement, les combats féministes actuels, on l'a dit, dénoncent notamment les violences obstétricales, ce qu'on a pu appeler grossièrement le point du mari, c'est-à-dire le fait de recoudre une femme sans même l'en informer, de la recoudre très serrée pour faire plaisir à son conjoint. Voilà, c'est charmant.
Ce qui est anatomiquement absurde en plus.
Ah oui, ce qui est un non-sens total. L'épisiotomie, c'est-à-dire couper de la peau pour que la tête du bébé puisse sortir, tout ça pratiqué sans consentement, ce qui est totalement contraire à la déontologie médicale. D'ailleurs, une amie me disait qu'elle avait l'impression d'être devenue la boîte à gants des médecins pendant qu'elle était enceinte.
Oui, et tu parlais d'épisiotomie, justement. En France, on est quand même assez champion en la matière. En 2016, on avait un taux d'épisiotomie de 20%. Avant, c'était même 30%. Alors que l'OMS dit qu'il faut mettre un terme, en fait, à cette pratique excessive et que l'épisiotomie de routine n'est pas recommandée. Et en fait, elle est d'un autre temps et ne prévient pas des risques de déchirure, finalement. Et elle a plutôt été imposée, en fait, par les médecins qui voulaient gagner du temps. Voilà. Alors qu'avant, quand on avait 10 enfants, on pouvait avoir un périnée plus fragile et donc peut-être qu'on pouvait couper pour aider à faire sortir la tête. Mais là, c'est plus devenu quelque chose de l'ordre de la rentabilité à l'hôpital.
Oui, surtout que c'est pas eux qui ont mal, donc en fait.
Non.
Ouais, on a vraiment l'impression de revenir à la Bible, en fait. Tu enfanteras dans la douleur, ma fille. Et d'ailleurs, le médecin Martin Winkler, qui est un grand défenseur des femmes en gynécologie et qui a écrit Le cœur des femmes, explique que pour lui, c'est réellement une mutilation, puisqu'en fait, on coupe un muscle qu'ensuite c'est long, douloureux et que parfois, pour certaines femmes, ça ne se répare jamais. Il rappelle qu'accoucher, ce n'est pas une maladie et qu'a priori, ça nécessite assez peu d'interventions médicales et que normalement, le praticien doit absolument respecter votre vœu de naissance, que ce soit dans l'eau, dans une maison de naissance, assise, voilà. On peut aussi noter qu'à Besançon, il existe une maternité providentielle où le taux d'épisiotomie est très bas. Il était à 0,5% en 2016. Donc, comme quoi, c'est possible.
Tout à fait.
Prenez votre temps, prenez soin des gens et ne les traitez pas.
C'est ça. Surtout, ouais. C'est hallucinant quand on entend des femmes qui te racontent qu'elles ont entendu le bruit des ciseaux. Ouais. Et que personne ne les avait avertis, en fait, ouais, de ce qui se passait entre leurs jambes. On peut aussi parler des violences faites aux femmes racisées, qui sont aussi extrêmement graves, puisque quand on est une
cumule.
Femme... C'est ça, puisque c'est encore pire, puisqu'on a beaucoup plus de risques de mourir en couche quand on est une femme racisée, notamment aux États-Unis. Par exemple, à New York, le taux de mortalité des mères noires est 12 fois supérieur à celui des mères blanches et 3 fois plus au niveau national.
C'est vraiment un double standard, en fait.
Exactement, et une femme noire de poids normal présente, mais d'ailleurs qu'est-ce que c'est un poids normal, mais disons en bonne santé, présente encore 2 fois plus de risques de complications qu'une femme blanche obèse, donc c'est pas du tout une question de conditions physiques, mais bien de prise en charge. Et c'est une réalité qui a été, par exemple, illustrée par la mort de Tanezia Walker, qui était une femme noire de 31 ans, qui est morte après son accouchement dans un hôpital de Brooklyn. Ça a été un peu médiatisé. On peut aussi citer la situation des pères trans qui sont stigmatisés par la société et le corps médical. C'est encore un très grand tabou. Il y a certains cas qui ont été documentés aux États-Unis, comme celui de Andy Inkster qui a porté plainte contre une clinique qui refusait de le suivre parce qu'il était entre guillemets trop masculin. Donc voilà, là on parle de pères trans en fait qui ont un utérus et qui ont des organes, enfin qui ont une vulve, un vagin, et donc qui sont complètement stigmatisés parce que c'est encore très tabou. Et enfin, on peut rappeler qu'accoucher devient inaccessible à certaines femmes qui doivent parcourir des kilomètres pour accoucher, puisque 73 services de maternité ont fermé entre 2003 et 2016 en France, ce qui est beaucoup.
Oui, c'est vraiment très paradoxal ce manque de moyens face à l'injonction qui reste très forte d'accoucher et d'être enceinte. On nous a envoyé un autre témoignage que je trouve éclairant. Je n'avais pas complètement pris la mesure de cette puissance avant de la vivre, mais devant ce fœtus déjà parfaitement formé à l'échographie, je me suis sentie forte et puissante comme jamais. Je crois de plus en plus que cette puissance donne aux femmes une énergie et un orgueil, et aux hommes un sentiment d'impuissance qui sont très importants dans les rapports entre les genres aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez peu. Et je pense que ça peut nous amener aussi à aborder dans les combats actuels la place des pères, en tout cas dans les couples où il y a un ou plusieurs pères. Non, je ne parle pas des masculinistes forcenés comme les pères perchés, mais de la manière dont souvent la maternité repose intégralement sur les épaules des femmes. Il y a d'ailleurs un projet de congé parental européen qui est dans les tuyaux, on va suivre tout ça. Et le projet français d'allongement du congé paternité, qui est aujourd'hui de 11 jours facultatifs, rappelons-le, proposé par le gouvernement, est pour l'instant repoussé. Donc une pétition circule pour que ce congé soit obligatoire et plus long. On en a un peu parlé dans le dernier épisode du podcast Splash sur les inégalités salariales, que je vous invite à écouter. En tout cas, ça permettrait vraiment au père ou au deuxième parent de s'impliquer dès le début, dès la naissance, puisqu'on sait que sinon les inégalités s'installent et souvent deviennent pérennes, puisque dans le foyer, une seule personne va maîtriser les techniques et le savoir sur le bébé et donc va devenir un peu le référent ou la spécialiste en la matière. Voilà.
C'est ça. Et ce que tu viens de dire sur le témoignage que tu viens de citer, ça me fait penser que dans les médias, parfois, on félicite les pères qui ont aidé les femmes à accoucher dans un train ou dans la rue en disant ce pauvre père qui a été confronté, qui a accouché tout seul comme un héros, la femme. Alors que l'héroïne, pardon, mais c'est quand même la femme qui a accouché toute seule dans des conditions compliquées.
Dans le RER A.
Donc, il faut rendre la puissance de l'accouchement aux femmes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme joyeuseté autour de l'accouchement? Il y a les fake news sur l'allaitement.
Il y en a tellement.
C'est ça. Donc, on a lu un article de Slate, en fait, qui rappelle qu'il n'y a pas d'études de grande envergure qui prouvent que le lait maternel est significativement plus bénéfique au bébé que le lait industriel et qui déculpabilise les femmes, puisque l'article explique que ce qui compte, c'est de pouvoir choisir et ne pas forcer les femmes à allaiter, parce que parfois ça ne marche pas, parfois on ne peut pas, parfois c'est douloureux, et en fait c'est culpabilisant, et ça permet pas non plus au père d'être impliqué. Et on nous a nous-mêmes parlé de femmes forcées à allaiter dans certaines maternités parisiennes, et en fait ça, c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est dangereux pour la santé des mères et des enfants. Et l'article explique aussi que le tout allaitement, c'est le nouveau mantra des médecins, mais qu'il peut être dangereux, donc de l'imposer pour la santé de la mère et de l'enfant. C'est ce que je viens de dire. Et surtout, derrière tout ça, il y a un lobby influent qui est la Leche League et qui prône l'allaitement exclusif. Et voilà, donc c'est un peu devenu ouais, le tout allaitement, alors qu'avant, c'était vraiment le biberon qui était le plus recommandé, entre guillemets, enfin, qui était le plus utilisé, alors que finalement, le plus important, c'est le choix.
Oui, la Leche League donc, fait du lobbying auprès de l'OMS. Donc, quand on se réfère à l'OMS, il faut voir qui est derrière. Et c'est vrai que ces arguments-là, naturalistes, enfin, sur la nature, sont un peu fallacieux, puisque bah, beaucoup de choses sont naturelles sans être forcément bénéfiques. Je ne sais pas, les maladies, par exemple, la mort, c'est naturel aussi. C'est pas pour ça que c'est plus sain. Voilà, mais tout ça, ça marche un petit peu dans les deux sens, puisque en même temps, il y a aussi du mom-shaming pour les femmes qui allaitent en public, à qui on reproche sinon de se caresser trop le ventre, de ne pas faire taire leur bébé, alors que bon, bah, s'il pleure, bah, c'est un bébé. Vous aussi, peut-être, avez-vous pleuré quand vous étiez enfant? Et à ça se rajoute le grand paradoxe des réseaux sociaux, puisque il y a à la fois des réseaux de soutien sur Internet, on peut citer sur Twitter Maman Blues, mais aussi le fléau d'Instagram et de ces bébés parfaits qui nous hantent jour et nuit. Et d'ailleurs, dans le magazine Wired, une mère racontait qu'elle n'avait jamais trouvé de photos de corps postpartum et qu'elle savait même pas à quoi ça ressemblait. Il y a aussi la compétition du corps parfait post-bébé. On a bien vu à quel point Kate Middleton était scrutée par les médias et aux États-Unis à quel point Jennifer Aniston était aussi scrutée pour savoir si elle avait ou non un baby bump ou peut-être, je sais pas, un ventre à bière ou juste juste un peu de bidon, quoi. Voilà.
And I was just fed up with it. And I think these tabloids, all of us need to take responsibility on what we ingest into our brains, because just because we're women, we have a uterus, we have a vagina, we have ovaries, we need to like get to work, lady, as opposed to hello freedom medal. We as women do a lot of incredible things in this world other than just procreate, and not that that is not.
Oui, et t'as toutes les Instagrammeuses qui Instagramment leur accouchement parfait aussi, ça peut être un peu oppressant.
Ouais.
Et qu'en est-il de notre expérience personnelle, Clémentine ?
Jusqu'à présent, je pense qu'aucune de nous deux n'a d'enfant.
Non.
Pourtant, moi, j'ai l'impression de grave maîtriser le sujet, puisque je suis entourée d'amis qui ont 1, 2, 3, voire 4 enfants, et qui gèrent grave, en tout cas pour certains et certaines. Alors que moi, c'est vrai que quand on me refile un bébé, j'ai toujours peur de le laisser tomber sur la tête. Oups. Mais en tout cas, c'est vrai que je suis assez soulagée de voir que mes potes m'ont parlé de leur grossesse ou de leur accouchement sans dissimuler les faits derrière le paravent de « c'est le plus beau jour de ma vie », puisqu'elles m'ont dit, pour certaines, qu'elles devaient porter des couches ou qu'elles n'avaient plus de rapport sexuel ou que parfois, elles avaient envie de balancer leur enfant par la fenêtre. Ne le faites pas chez vous. Mais c'est vrai qu'autour de moi, néanmoins, j'ai quand même été assez effarée de constater que la fille ou la femme était très souvent seule après avoir accouché. Et en fait, je connais très très peu d'exceptions à cette règle. Et je trouve ça hyper dur, enfin voilà, ce déséquilibre. Et je trouve que c'est aux hommes, en fait, de redresser la barre au lieu de retourner au travail au bout de 10 jours, et qu'il faut vraiment se mettre d'accord avant, en fait, en couple. Voilà, sinon, je pense que, de manière générale, on a aussi le droit de dire qu'on regrette ou qu'on n'aime pas être parent, même si on aime ses enfants. Mais bon, je reste open. Et toi ?
Bah, moi, c'est un peu différent parce que j'ai pas tellement d'amis autour de moi qui ont accouché. Mais en fait, moi, c'est ma mère qui a été la personne qui a
accouché.
C'est ça. Et qui a été qui m'a le plus parlé de maternité. Parce que, à ses yeux, c'est le bonheur, la merveille, la plus grande aventure de la vie.
Waouh!
Bon, après, nous, on a tous été prématurés quasiment. Et ma petite sœur, ils ont eu peur, mes parents, parce qu'elle c'était une grande prématurée, mais elle va bien aujourd'hui. Mais du coup, ma mère m'a toujours transmis une vision un peu magique de la naissance. Mais qui quelque part fait du bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément la personne vers qui j'aurais envie de me tourner quand moi-même je serai enceinte, ou en tout cas pas la seule. Du coup, moi je me suis construite avec ce modèle-là qui donne plutôt envie de faire des bébés, j'avoue. Et pourtant, je suis aussi terrorisée à l'idée d'accoucher et j'en rêve souvent. Ouais, je rêve que je suis à l'hôpital et que mon mec vient pas, que je suis seule et que ça va arriver et que j'ai tellement peur, en fait. J'ai peur d'être coincée.
Mais non, on sera là.
C'est assez effrayant. Voilà. Et en fait, j'ai aussi peur qu'on me fasse du mal ou d'avoir mal. Et comme je commence à lire plein de récits, c'est un peu à double tranchant parce que d'un côté, on est informé et je pense que c'est extrêmement important parce que c'est aussi une question de pouvoir. Mais d'un autre côté, il faut admettre que c'est un peu anxiogène, les récits difficiles d'accouchement.
Et, oui, parce qu'on se sent très vulnérable. En fait, enfin, on a l'impression de pas pouvoir faire grand-chose face à ça.
C'est ça. Et après, sur la question du congé paternité ou en tout cas de l'autre parent, je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, je connais un couple, ils sont en Suède. Et le papa,
évidemment.
Voilà. Et le papa, il va prendre 6 mois après la mère qui va retourner bosser. Et donc, comme ça, le bébé aura eu ses parents pendant quasiment un an tranquille, quoi. Donc ça, c'est super. On va d'ailleurs maintenant écouter le témoignage de Saena, qui est intéressant et qui rejoint ce qu'on vient de dire. Donc elle n'a pas peur de parler des trucs trash de son accouchement, car sa péridurale n'a pas marché.
Oh non !
Non. Et en fait, elle aurait aimé qu'on lui en parle avant. Donc elle raconte ça, et elle dit que quand son gynéco est venu la voir après, elle lui a demandé « Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» Et il lui a dit que s'il l'avait informé que ce serait, je cite, « une boucherie », elle aurait flippé.
On l'écoute. Normal, en fait.
On l'écoute.
J'ai eu un diabète de grossesse, donc moi j'étais assez suivie. Donc je suis allée à la fin, la dernière semaine, toutes les 48 heures, voilà, pour faire un monito pour voir si tout allait bien. Au moment d'un des monitos, j'avais des spasmes au ventre et tout. En fait, j'ai appris que c'était des contractions et ça faisait 48 heures que je les avais. Donc là, on m'a dit, bah, clairement, vous n'allez pas quitter l'hôpital sans avoir votre enfant dans les bras. Donc là, déjà, t'es un peu surpris. T'as très mal, mais t'essayes de contrôler la douleur. Moi, je pense que sur ça, j'ai bien réagi parce que je m'étais préparée à avoir mal et à avoir très, très mal. Donc, à la limite, c'est pas tant les contractions à ce moment-là qui m'ont fait mal. Donc, j'étais en train de douiller, hein, mais c'était, je soufflais, j'étais concentrée et tout. Et c'était tac, là, la poche des os qui se déchire sur le lit d'hôpital. Moi, ça m'a tellement fait mal. Et là, à ce moment-là, les contractions, disons, un peu sèches, sans la poche des os, elles m'ont tellement fait mal que mon lit d'hôpital s'est cassé en deux. Là, ça commence à monter. Je commence à avoir de plus en plus mal. La tête s'engage dans le petit bassin. C'est vraiment insupportable. Là, moi, c'est comme dans un film américain. Enfin, moi, je suis en train de crisser des dents. J'ai des gens autour de moi. Les sages-femmes, elles courent. Il y a mon mec qui est livide. Et là, c'est ces douleurs, ces étapes de douleurs différentes. Enfin, on pense que c'est les contractions. C'est pas tant ça qui fait mal. C'est la torture entre les deux contractions qui te fait mal, en fait. Je pense que la douleur psychologique, elle est vachement plus percutante, en fait. Et en fait, tu commences à quasiment halluciner. Et ça, on te le dit qu'après. On te le dit qu'après qu'en fait, tu sécrètes une hormone qui se rapproche d'un état hallucinatoire ou de folie qui va te faire voir des choses absurdes, qui va te faire ressentir Enfin, là, c'est ton corps qui te demande de mettre fin à tes jours. C'est ce moment où tu te dis, tuez-moi. En fait, je préfère mourir que d'avoir à vivre. Je ne sais plus pourquoi, quel est l'intérêt de vivre ce moment de douleur. Enfin, je ne comprends même pas le but d'avoir autant mal. Tu as tes cuisses qui sont en train de trembler, tu as tout ton corps qui tremble, tu as tes yeux, tu as l'impression que tes yeux ils vont sortir de leurs orbites tellement tu es en train de pousser avec toute ta force. Voilà, la sage-femme, elle me dit « touche la tête de ton gosse entre tes jambes », donc l'enfant n'est pas sorti. Elle me dit « touche la tête de ton gosse parce qu'elle va te donner de la force pour l'éjecter ». Mais attends, mais c'est dans quel... Non, en fait, elle ne va pas me donner la force. Enfin, c'est une sorte de science-fiction ou une sorte d'être humain entre tes jambes qui n'est pas encore complètement à l'extérieur, mais qui n'est pas complètement à l'intérieur, qu'il faut toucher pour te donner de la force. Mais non, enfin, moi, il fallait me préparer à ce genre de trucs. Mais en même temps, quand je parle à d'autres personnes qui osent, quand tu grattes, qui commencent à dire « oui, j'ai bien accouché », en fait, quand tu commences à gratter, qui non, ont vécu la même chose que toi, qui ont eu envie de mourir, qui ont eu envie d'arrêter de pousser, en fait, de dire « non, mais en fait, ouvrez-moi le ventre, sortez-le, mais faites autre chose, mais arrêtez de me demander de mettre des efforts, parce que là, j'y arrive plus. Je sais pas. Donc, en fait, je suis à un stade où je fais même plus confiance au récit d'accouchement. Je me dis juste « ok, elle est en train de me mentir comme toutes les autres, elles m'ont pas dit la vérité, parce que, je sais pas, elle a envie de se protéger, ou elle a envie d'être enrobée autour d'un storytelling mignon d'accouchement. » Après, moi, je sais pas à quoi ça sert, un storytelling mignon. J'ai pas envie de mentir plus tard à mon enfant qui m'a demandé comment s'était passé aussi ton accouchement, maman. Enfin, non, je vais dire la vérité. Ça ne fait pas de moi. Enfin, ça ne fait pas moins aimer mon enfant. Enfin, j'adore être maman. Je trouve ça génial. Mais à quoi ça sert de ne pas aider les autres mamans, les futures mamans et les prochaines mamans? Enfin, de savoir ça, je pense que ça peut leur donner des armes pour être plus fortes, pour lutter davantage.
Voilà, c'était Saena, merci beaucoup. Donc, heureusement, il y a des raisons de se réjouir, puisqu'il y a des livres maintenant qui sortent sur le sujet, des livres féministes. Donc, il y a notamment le guide féministe de la grossesse, écrit par une Française et une Finlandaise, Elisa Rigoulet et Fila Intikka. T'en as pensé quoi ?
Alors moi je l'ai lu, il faut dire que le livre s'adresse quand même surtout aux femmes, on va pas se mentir, mais voilà, si des hommes veulent se l'approprier, c'est très bien. Il y a pas mal de choses intéressantes à l'écrit, notamment comment mieux parler de ce qu'on appelle à tort la fausse couche, ce qui est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire quand on a un œuf clair, c'est une vraie grossesse qui peut être extrêmement traumatisante et qui concerne quand même une femme sur quatre. Donc c'est vraiment énorme et c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir honte. Et le livre, par ailleurs, donne aussi des conseils pour annoncer ou pas sa grossesse, que boire à l'apéro, que manger, etc. Les autrices disent aussi qu'il faudrait que les pères aient des rendez-vous individuels pour pouvoir poser des questions et se sentir plus concernés. Je pense que c'est une très bonne idée. Et le livre donne aussi d'autres références que la Bible habituelle, qui est celle de Laurence Pernoud. Donc ça, c'est un livre qui conseillait de dissimuler son ventre sous d'amples vêtements.
C'est tellement bizarre.
Sinon, comme conseil, on peut vous recommander de suivre PAF, donc le collectif militant pour une parentalité féministe, et des comptes Instagram comme celui de la doula Domino Kirk.
Ah oui, et moi j'aime bien le compte Instagram aussi Squad for Change. C'est des papas qui changent leurs petits bébés dans les toilettes parce qu'en fait, ils n'ont pas de table à langer dans les toilettes.
Ouais, c'est vrai.
Donc ils se prennent en photo en train de galérer et ils réclament les tables à langer. C'est hyper drôle comme compte, c'est super cool.
On peut aussi recommander le livre de notre consoeur Renée Grezard, Enceinte, tout est possible, que j'avais lu à l'époque de sa sortie et que j'ai trouvé très déculpabilisant. Elle dit notamment que quand on est enceinte, on peut boire un petit peu. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est le cas très extrême du syndrome du fœtus alcoolisé. Donc, c'est vrai qu'en général, on en est quand même loin.
C'est sûr. On peut aussi citer la grande Marie-Hélène Lahaye, la juriste qui a aidé à la reconnaissance des violences gynécologiques et obstétricales en France. Elle est belge et elle a publié « Accouchement, les femmes méritent mieux » aux éditions Michalon. Et elle tient le blog « Marie accouche là » sur Le Monde, c'est ça ?
Ouais.
Et donc elle a un discours très intéressant justement sur le fait que l'hôpital peut aussi être un monde de violence et qu'il faut se réapproprier cet épisode-là de la vie et qu'il faut donner le pouvoir aux femmes, quoi.
Et alors du côté des podcasts sur ce qu'on appelle en anglais le parenting, c'est-à-dire l'activité d'être parent, en France, c'est vraiment en train de se développer. Il y a notamment la matrescence qui raconte comment le fait de devenir mère serait comme une nouvelle adolescence. Il y a également le podcast Le Nid.
Le Nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement, avec bienveillance, sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité.
Il y a Histoire de Daron, pour les hommes.
En fait, je pense qu'il est temps de libérer la parole des pères sur le sujet de la paternité. Histoire de Daron, c'est exactement le genre d'entretien que j'aurais adoré écouter. Donc j'ai décidé, plutôt que d'attendre que quelqu'un s'empare du sujet, de m'y mettre moi-même et de vous les proposer.
En anglais, Gimlet Media lance ce mois-ci Motherhood.
I never really wanted to be a mother. I never cared for kids. I never wanted children.
As an adopted person, my kids are the first biological relatives that I've ever seen.
Our relationship could not sustain the stress of parenthood.
My mom used to say, I want to run away. And I said that the other day.
Moi, de mon côté, j'ai une amie qui est en train d'apprendre l'art-thérapie. Et elle compte le dédier exclusivement à ce qu'on a appelé le baby blues, c'est-à-dire la dépression postpartum, puisqu'elle dit que très peu de médecins en fait, s'occupent spécifiquement de ça, que c'est un épisode qui est très souvent minimisé, alors qu'en fait la solitude, la fatigue et la dépression, c'est vraiment réel et ça peut être très très problématique pour beaucoup de mères.
Le moment
pop culture,
pop culture.
Donc du côté de la pop culture, on peut citer les comédies romantiques qui évidemment parlent du sujet, avec une figure à la fois désirable ou repoussoire des mères. Donc il y a les gender reveal parties qui assignent un destin genré à l'enfant même pas né, les baby showers, la figure de la femme enceinte vénère comme dans Plan cœur, la série sur Netflix...
Parce qu'Antoine croit encore que tu vas au yoga prénatal ?
Ah oui, au rythme où je suis censée y aller, le Dalai Lama peut aller se rhabiller.
Il y a aussi la maternité vue comme but ultime de la vie, mais pas pour les mecs évidemment. Il y a Knocked Up de Judd Apatow.
En cloque, mode d'emploi.
Je suis tombée enceinte.
Quoi, un bébé ?
Oui.
T'attends quoi de moi en fait ?
C'est ton enfant, je l'ai fait avec toi.
Dans laquelle la meuf est enceinte et c'est pas vraiment drôle puisqu'elle est rabat-joie, contrairement au père qui lui est plus sympathique. Il y a quand même de rares films qui montrent les choses de manière un peu moins stéréotypée. Moi, j'ai vu Tully de Jason Reitman qui parle en fait plus de santé mentale et qui représente ces problèmes-là après l'accouchement.
Tu vois ce que c'est une nounou nuit ? Elle s'occupe du bébé la nuit et papa et maman peuvent dormir.
Je veux pas d'une étrangère chez moi. On dirait un de ces films où la nounou veut tuer toute la famille et où la mère survit, sauf qu'à la fin, elle a une canne.
Et d'ailleurs, il y a même une scène où on voit Charlize Theron en couche et qui galère à faire pipi.
Un Oscar.
Et qui galère à faire pipi après son accouchement. Donc ça, je trouvais ça assez courageux. Il y a aussi Une femme heureuse de Dominique Savage qui parle justement de dépression postpartum, qui est quelque chose de rarement représenté au cinéma.
I need to do something else.
Kids are hard.
Et alors, en réponse à tous ces stéréotypes pourris, parfois, on peut se tourner vers les séries télé créées par Sharon Horgan, qui est donc une comédienne et autrice britannique. C'est elle qui a créé et qui joue dans Catastrophe, dont la saison 4 est diffusée en ce moment, qui pour moi est de loin la meilleure série sur le couple hétérosexuel qui se serre les coudes face à la grossesse. Elle a aussi fait Motherland, dont j'ai déjà parlé dans le podcast, qui est vraiment une très très belle série sur la hantise de la parentalité. Donc même si on aime ses enfants, on peut haïr être parent.
I really admire how you can just switch off your family and focus on your job because I would just hate myself too much.
Yeah, I hate myself.
Et sinon, si on veut rire un petit peu de l'horreur de l'enfantement et du voisinage intempestif, on peut revoir Rosemary's Baby de Roman Polanski. voilà, sauf si vous le boycottez, pas de problème.
C'est pour quand, ma douce ?
J'allais chercher le
pierre
bougeant.
Oh là là, je voudrais déjà y être. Dites-moi, vous avez un bon docteur ?
Oh oui, il m'a été recommandé.
Un des plus grands obstétriciens d'Amérique est un très vieil ami. Il s'agit du docteur Sapirstein. Tous les enfants de la haute société, c'est lui qui les met au monde.
Et du côté du stand-up, donc il y a des femmes enceintes sur scène. Il y a Baby Cobra d'Ali Wong.
It's very rare and unusual to see a female comic perform pregnant. Because female comics don't get pregnant.
Et en ce moment, Growing de Amy Schumer, tous les deux sur Netflix.
If you had a good pregnancy, like if you're someone who enjoys being pregnant, I just hope your car flips over. That's what I wish for you.
Amy Schumer qui raconte donc comment elle a vomi tous les jours depuis le début de sa grossesse et qu'elle a envie de foutre le feu.
Et en France, on peut aussi citer la web-série Loulou sur Arte, sur une grossesse non prévue.
Si ça se trouve, il est né d'une levrette sans âme, un matin gris. C'est horrible.
suis nul.
C'est assez touchant et c'est vrai que je trouve que même quand on parle des aspects difficiles finalement de la grossesse et de l'accouchement, ça peut quand même rester très tendre et ça fait pas de nous des haïsseurs ou haïsseuses de bébés, c'est juste parlez-nous de la vraie vie.
Des haters.
Voilà, et donc Loulou, c'est très touchant.
Et moi, je recommanderais également un roman d'Annie Ernaux. De toute façon, lisez tous les romans d'Annie Ernaux, ça ne vous fera pas de mal. Là, en l'occurrence, c'est La femme gelée, qui contient une description glaçante des débuts de la maternité, donc de la sienne, on suppose, vécue comme un moment extrêmement solitaire, monotone, où elle était jeune prof, mais devait rester à la maison, où elle s'occupait du bicou, c'est comme ça qu'elle appelle son bébé, toute la journée, et elle écrit comment elle commence à devenir folle, même en étant en couple progressiste avec un homme impliqué. En fait, on voit très bien comment elle s'isole et comment son couple se délite peu à peu. Et pour une vision un peu plus joyeuse, il y a Les Argonautes de Maggie Nelson, qui était le grand roman queer de l'année dernière, dans lequel l'autrice parle de sa relation avec son conjoint trans et de la naissance de leur enfant. Et moi, j'ai jamais vu une naissance décrite de cette manière. J'ai trouvé ça très, très impressionnant. Voilà, je vous le conseille.
Les recommandations culturelles
de Quoi de Meuf.
Alors, dans les recommandations, moi, j'ai envie de recommander le roman graphique de l'artiste japonaise Rokude Nashiko, qui a été arrêtée pour son art vulvaire. Donc en fait, elle fait des...
Et non pas vulgaire.
Ouais, c'est ça. Et parce qu'elle fait des moulages en plâtre de son sexe et elle a été détenue, en fait, dans une prison japonaise à deux reprises. Et elle raconte...
Quoi ?
Oui. Et elle raconte les conditions de détention dans son manga et tout son parcours artistique. Et c'est impressionnant parce que ça parle vraiment des conditions des détenus au Japon et notamment des femmes. Et c'est assez incroyable. Et elle apparaît aussi dans le film documentaire Female Pleasure de Barbara Miller, qui est sorti récemment en France. An artist in Tokyo has been arrested for 3D printing an image of her vagina. J'ai aussi envie de recommander le dernier film en fait d'Agnès Varda, qui s'appelle Varda par Agnès et qui est diffusé sur Arte, où elle parle de toute sa filmographie. Et c'est très beau.
Ce film, je l'ai fait sans aucune expérience, sans avoir fait d'école de cinéma, sans avoir été assistante. Un film sorti de je ne sais où.
Moi, de mon côté, je voudrais conseiller un essai. C'est « Mes bien chères sœurs » de Chloé Delhomme, avec le sous-titre « Désolé, ça sent le fauve, il est temps d'aérer ». Donc c'est un essai qui parle de la nouvelle sororité qui est en train de prendre corps ces jours-ci, ça ne vous aura pas échappé. C'est vraiment une salve qui a été écrite... en plein dans l'actualité, très très récemment, avec beaucoup de verve. C'est un texte assez nerveux qui parle de l'après-MeToo et du sort de ce qu'elle appelle les couillidés. donc les mâles blancs hétérosexuels.
C'est très difficile de se construire, je crois, quand on est dans les années 80, que le modèle de la femme pour les adultes, on dit que c'est la working girl, mais enfin, très concrètement pour les jeunes filles, c'est cette émission Cocorico Cowboy avec une plémette du mois, une femme qui se dénude sous les regards concupiscents et poétesques de Jean Roucas. Et sinon, c'est Samantha Fox et, ouais. c'est un peu difficile.
Et dans la forme, c'est un petit peu une réponse tardive au King Kong Theory de Virginie Despentes qui écrivait « J'écris pour les mal baisés », etc. etc. Là, Chloé Delhomme écrit « J'écris pour les ex-bonasses, pour les tox de pharmacie », etc. Voilà, je vous le conseille.
Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de Meuf vous écoute.
Alors cette semaine, on nous a envoyé cette épineuse question. Mon copain préfère l'épilation définitive pour le cuni, mais il me semble que les poils protègent mon hygiène intime. Que faire, Pauline ? Peux-tu nous répondre ? Question épilation.
Chère auditrice, d'abord, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, là, on parle de ton corps, qui t'appartient à toi et pas à ton copain, a priori. Donc, la question, ça serait plutôt de savoir, à mon avis, ce qui, toi, te met la plus à l'aise et qu'est-ce qui te fait le plus aimer ton corps. Si c'est enlever tes poils, pourquoi pas. Mais si c'est garder tes poils, réfléchis-y parce que c'est ton choix. Et en fait, est-ce que ton mec parle d'épilation intégrale ou définitive au laser, enfin en tout cas c'est pas anodin comme acte. Et ça touche à ton intimité, donc c'est vraiment à toi de décider comment tu te sens mieux, et pas à lui, même si vous avez le droit d'en parler, c'est ton corps. Pour la partie sur la vertu protectrice des poils, je t'invite à lire l'article de BuzzFeed « 23 choses que vous devriez savoir sur les poils pubiens », rédigé avec deux dermatologues. On apprend notamment que les poils pubiens sont une barrière contre les bactéries et les petites abrasions de la peau. Et en fait, le fait de se raser, par exemple, entièrement, ça favorise les irritations, voire les petites blessures. Et ça peut même potentiellement augmenter un risque d'IST, comme l'herpès ou le HPV. Donc
d'infection sexuellement transmissible.
Oui. Ou la prolifération de bactéries, comme le staphylocoque doré. Et ça augmente aussi potentiellement les risques de mycose et même apparemment de cystite. Donc super. Et effectivement, ce n'est pas plus hygiénique, c'est plutôt l'inverse. Et en plus, les poils sont des capteurs de sensations. Donc ça fait quand même beaucoup d'arguments pour les garder, je trouve. Et puis ensuite, des poils n'ont jamais empêché de faire un bon cumis, ça se saurait. Et à la limite, on peut un peu tailler les poils si on veut que l'autre en ait pas plein la bouche. Mais encore une fois, c'est à toi de décider. Donc voilà, c'est vraiment ton choix.
Ouais. Je pense que le bon cuni est plutôt lié à la personne qui le pratique plutôt qu'au poil. Donc arrêtez de trouver des excuses fallacieuses.
Et si ton mec te dit que tu auras moins de sensations si tu t'enlèves les poils, nope.
Testé et approuvé. Bon, bah, en tout cas, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode court. Merci. Salut Pauline.
Salut Clémentine.
Quoi de meuf est une émission de nouvelles écoutes présentée par Clémentine Gallo
et Pauline Verdusier,
avec à la réalisation sonore Aurore Meilleur-Mailleux, à la prise de son Adrien Beccaria, montage et mixage Laurie Galigani, coordination Laura Cuissard.